gens de... On a peine à te repousser, à trouver des arguments, mais j'ai eu tort, parce que je ne pense pas avoir quoi que ce soit de plus à dire sur cette question que tous les gens qui sont autour de cette table. Mais bon, on en a discuté un peu au téléphone il y a quelques jours, on a convenu que je ferai quelques, enfin, j'aurai quelques propos introductifs, et puis qu'ensuite, ce serait la discussion, que je n'ai pas de discours ex cathedra à produire sur cette question. Mais il se trouve que quand même, j'ai travaillé cette affaire, non pas l'affaire du lynchage des Roms, hein, mais l'affaire de la manipulation, disons, des croyances, des préjugés, en réfléchissant sur un thème qui m'est cher dans le domaine politique où je m'investis dans le cadre de Médecins sans frontières et de l'aide humanitaire dans laquelle je suis plongé depuis longtemps, à savoir les guerres dites humanitaires. Donc la réhabilitation, il y a deux aspects là-dedans. Il y a d'une part, sur le plan, disons, philosophique et politique, la question de la réhabilitation de la guerre juste sous les auspices de la guerre de sauvetage. Bon, ça c'est, disons, un aspect. Et puis il y a l'autre aspect que je laisserai de côté là, et il y a l'autre aspect que je vais, sur lequel je vais dire quelques mots, qui est celui du travail de conviction, de travail de persuasion, l'espèce de psychologie de masse qui est mobilisée pour soutenir cette entreprise. Parce que dans un pays démocratique, même si notre démocratie est en mauvais état, elle est quand même là, un pays démocratique ne peut pas se permettre de faire la guerre, de s'en lancer dans une entreprise militaire, sans recueillir l'assentiment de sa population. C'est à peu près, de ce point de vue-là, la seule différence qu'il y a avec une dictature. Elle n'est pas mince, mais pour le reste, la question de la vérité, du mensonge, du travestissement, de la manipulation se pose dans des termes, à mon avis, et c'est mon premier constat, dans des termes absolument identiques, que l'on soit en régime démocratique ou que l'on soit en régime autoritaire ou dictatorial. La guerre, c'est le mensonge et la manipulation, et cela indépendamment de toute forme, toute distinction politique concernant les régimes en cause. Donc c'est à partir de là que j'ai accepté d'introduire cette conversation. Et je voudrais dire quelques mots de la guerre de Libye, parce qu'elle me semble, à l'évidence, elle relève de ce dont nous parlons là. D'une certaine manière, on peut considérer que la guerre de Libye, c'est une sorte de ratonnade civilisée, de ratonnade militarisée. Et si je dis ratonnade, ce n'est pas... je ne veux pas faire un procès d'intention... Enfin, surjouer un procès d'intention au gouvernement de l'époque qui aurait été ravi d'aller casser de l'arabe, etc. Ce n'est pas exactement ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout de même l'idée qu'on allait botter les fesses d'un régime arabe au nom de la civilisation et d'une sorte de supériorité technique et militaire qui se manifestait là. Et je pense que c'est absolument primordial. L'impensée coloniale et la dimension particulière concentrée sur une partie du monde arabe qui se joue là me semble être essentiel pour comprendre la chose. Et dès lors que l'on est dans ce que j'appelle, enfin, derrière pas mal de gens, cette impensée coloniale, on est, j'allais dire, évidemment, c'est peut-être pas aussi évident que ça, mais en fait même on est tenté par le culturalisme et l'essentialisme. Ils vont avec le... C'est ce qui fait que le sujet colonial peut être construit comme un sujet colonial. Autrement, on ne voit pas sur quoi ça reposait. En tout cas, empiriquement, on constate que c'est comme ça que ça se passe. Et là, je pense qu'avec la question des Roms et la représentation dominante des Roms, qui a été largement... travaillé et qui a connu une élaboration particulièrement dégoûtante dans la bouche de notre ex-premier ministre Manuel Valls, une espèce que moi je vois comme une espèce de Marcel Déa moderne, enfin, qui est pour moi le comble de l'horreur politique. Cet homme-là a contribué à l'essentialisation des Roms de la même manière que Kadhafi a été construit comme le personnage idéal avec une tête de malfrat qui concentre tous les fantasmes anti-arabes, voire anti-africains que l'on peut imaginer et qui constitue une sorte d'épouvantail idéal. Et de cette impensée coloniale et de l'essentialisme dans lequel on enferme le sujet de cette impensée coloniale, on peut déboucher sur un deuxième moment qui est la construction d'un épouvantail idéal qui déborde le monde colonial, mais qui est quand même fondamentalement ancré dans ce rapport inégalitaire, dans ce rapport de supériorité. Et voilà pour, disons, le cadre analytique dans lequel je me situe. Maintenant, quelques mots sur les faits qui sont mobilisés pour justifier une entreprise aussi grave qu'une décision de partir en guerre, enfin, qui est peut-être la décision politique la plus grave qu'on puisse imaginer, enfin, qui est traditionnellement décrite dans les manuels de sciences politiques comme la décision difficile, la ligne de partage ami-ennemi, la mobilisation des amis pour l'effort mené contre l'ennemi. Ça, c'est ce qui est d'une certaine manière l'essence historique de la politique, si ce n'est... Il ne s'agit pas d'essentialiser le politique non plus, mais c'est tout de même au fondement de la construction étatique, et donc c'est au fondement du politique. La décision d'entrer en guerre, avec d'ailleurs une mobilisation institutionnelle étonnante, je rappelle par exemple que en l'espace de quelques jours, la Cour pénale internationale, qui met habituellement des années à se mobiliser sur l'Afghanistan, sur la Palestine, sur tous les sujets qu'on peut imaginer, en 15 jours, le procureur avait déjà lancé une première enquête préliminaire et avait décidé que Kadhafi était un criminel contre l'humanité qu'il fallait mettre hors d'état de nuire. C'est dire à quel point ça n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné, parce que les partisans de la justice internationale, qui se situent assez volontiers dans un camp, disons, progressiste au sens le plus large et le plus mou du terme, mais tout de même dans ce camp-là, est très gêné de voir cette espèce d'empressement servile de la Cour pénale dans ce domaine qui contraste avec son immobilisme et son conservatisme et son alignement sur les pouvoirs dominants, disons, en général. Donc ce qui est frappant, c'est la série de bobards, je vais les décliner rapidement puis j'en terminerai là, la série de bobards qui sont de l'ordre de la camionnette blanche, ou de l'ordre du marchand de fringues et de sa cave pour la rumeur d'Orléans, travaillé par Edgar Morin dans les années 60. Cette série de bobards, ce sont d'une part un faux bombardement sur des manifestants à Tripoli, qui seraient descendus dans la rue quelques jours après les premiers manifestants de Benghazi, qui le 15 février 2011 se retrouvent pour défendre un avocat d'ailleurs d'islamistes enfermé par le régime de Kadhafi, ce qui déclenche une protestation dans le contexte d'une rivalité historique très, très importante entre Benghazi et Tripoli. Les deux grandes villes de Syrie et de Libye sont éloignées d'à peu près 1500 km. Donc ce ne sont pas deux pays différents, mais tout de même, cette distance matérielle à son importance, à cette rivalité. Et puis Benghazi était le siège de la monarchie libyenne, donc traditionnellement accueillant le pouvoir, qu'elle s'est fait d'une certaine manière dérober à partir du moment où le régime s'est installé dans l'autre grande ville, Tripoli. Bref, dans le cadre d'une rivalité bien établie, bien construite, Benghazi se soulève contre Tripoli et des manifestants à Tripoli, dont on ne sait pas d'où ils viennent, dont personne n'a jamais retrouvé la trace, mais descendent dans la rue et là se font bombarder par l'aviation libyenne. Ça, c'était quelques jours après, donc c'était le 22 ou 23 février, donc une semaine après les manifestants de Benghazi. Et cette les manifestants de Benghazi étaient bien réels, ceux de Tripoli restent pour le moins douteux. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'on a quasiment, quand je dis quasiment, je ne sais pas pourquoi je fais cette réserve, on n'a aucune image de cela. Et en particulier, c'est-à-dire c'est sur un témoignage oral que l'idée que cette attaque contre des manifestants, attaque aérienne contre des manifestants, a été établie. Et ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants, parce que là aussi, on est dans le sujet de la croyance antérieure à l'événement. Ce qui rend le possible, ce qui fait passer du possible au factuel, c'est que ça rentre dans un cadre de plausibilité. Et donc qu'un dictateur comme Kadhafi s'en prenne à sa population par des moyens violents divers, c'est évidemment possible. Il se trouve qu'il n'a jamais commis de massacre de masse, probablement commandité les attentats terroristes, ça c'est à peu près certain. Quand je dis à peu près, ce n'est pas une prudence rhétorique, c'est qu'il reste quand même quelques doutes sur les deux avions. Mais disons, ce ne sont que quelques doutes. Et par ailleurs, il a écrasé un soulèvement dans une prison, soulèvement islamiste dans une prison, au prix de 1500 morts, mais pour lesquels il a reçu d'ailleurs les félicitations générales, parce que 1500 islamistes, c'est de la racaille en moins du point de vue politique, et donc il n'a été que congratulé pour cela. Mais donc, bien qu'il n'ait pas, entre guillemets, cette tradition politique de massacre, il reste néanmoins un dictateur qui pratique le népotisme, la torture, l'exclusion. Ça, c'est une réalité incontestable, et c'est ce qui me fait raisonner sur cet équivalent, enfin, ces passages du possible au plausible et du plausible au factuel. Parce qu'il y a un horizon d'attente, il y a une sorte de cadre de crédibilité qui entoure tout cela. Et c'est Al Jazeera. On n'a pas assez dit, parce que c'est vexant, évidemment, pour tout un tas de gens, que cette guerre est une coproduction franco-qatari du début à la fin. C'est donc Al Jazeera qui interrompt ses programmes pour passer un témoignage en direct en provenance de la grande place de Tripoli, témoignage d'une personne qui était en train de manifester et qui, de manière haletante, décrit à Al Jazeera les horreurs en train de se passer, à savoir des missiles tirés par des avions qui visent la foule des manifestants démocratiques, des démocrates de Tripoli. Donc c'est une voix qui s'exprime sur Al Jazeera. Et ce qui est vraiment amusant, tout en étant particulièrement inquiétant, mais bon, les deux se mêlent là, c'est que, d'une part, c'est le point de départ de la guerre, c'est le moment où les trois chefs d'État capables, les trois seuls chefs d'État du monde capables de projeter leurs forces armées loin de leur territoire, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. J'aurais pu mettre la Russie. La Russie est la quatrième puissance capable de faire ça, mais disons, en l'occurrence, ça n'était pas son programme. Ces trois chefs d'État déclarent que un homme qui lance son aviation contre son peuple n'est pas digne de gouverner et il doit partir. Il est frappant de voir que ce sont des formulations pratiquement identiques qui sont employées par trois chefs d'État qui se sont peut-être concertés, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cela qui est affirmé donc à partir de là. Et pour faire sourire tout le monde, il se trouve que notre communicant national, Bernard-Henri Lévy, commence son livre intitulé « La guerre sans l'aimer ». Il commence son livre, c'est la page 1 de son livre, sur cet événement, avec une phrase d'introduction tout à fait, comment dire, tout à fait juste, tout à fait correcte, à laquelle en tout cas je souscris totalement. C'est, il faut toujours s'intéresser au commencement, car une bonne partie de la suite est liée à la manière dont l'affaire s'est engagée. Donc oui, intéressons-nous au commencement, dit-il, et pour lui, le commencement, c'est cela. C'est ce bombardement de Tripoli, de la place des manifestants de Tripoli. Et il compte avec luxe de détails, y compris quelques détails un peu égrillards, sexuels, comme une espèce de clin d'œil par d'une femme qui, toute pudeur bue, roule sur elle. Donc on suppose qu'elle a dévoilé ses dessous en étant... En basculant dans la poussière, cette espèce de coup d'œil. Enfin, moi, je ne suis pas du tout puritain, je précise, mais j'ai trouvé cette allusion mais d'une obscénité sans limite. Mais par ailleurs, il décrit avec ce genre de détails tel homme avec sa casquette qui se cache dans une encoignure, tel autre qui entre dans une porte, dans un immeuble pour se protéger. Tout cela à partir d'images qu'il voit dans le salon business de l'aéroport du Caire, sortant de la place Tahrir, où il était allé voir comment se rendre utile, et où il constate cela. Et du coup, il va rejoindre la rébellion de...
Non, il est partout.
Il est au Caire.
Il est au Caire.
Et il décrit ce qui se passe à Benghazi... Depuis,
pas Benghazi, à Tripoli.
À Tripoli, depuis
à partir,
le...
À partir des écrans de télévision.
À des écrans de télévision, voilà.
Cette scène a été filmée. Ouais. Et donc, ce sont... C'est là-dessus que je voulais venir. Ces scènes sont décrites comme les images que tout le monde a vues. Je cite, là, entre guillemets. Ces images que tout le monde a vues. Or, ces images, tout le monde les a entendues, mais personne ne les a vues. Parce qu'elles n'existent pas. Mais tout le monde croit les avoir vus. C'est pour ça que je disais que c'est à la fois rigolo à cause de ce clown, mais effrayant, parce que ça procède d'une hallucination collective, d'une espèce de diffusion de croyances, enfin, plus exactement, prenant appui sur la croyance que je relie à cette impensée coloniale dont je parlais au début. L'arabe est un tueur, il attaque en masse, il se mobilise en horde, et seuls des coups de pied au cul modernes, c'est-à-dire des tanks, des drones, des missiles, vont pouvoir l'arrêter, d'où mon image de la ratonnade du début. Mais c'est là que, vraiment, on voit à quel point l'information, de cette manière, ne sert à rien. Il y avait des tas de journalistes qui étaient à Tripoli à cette époque. Et d'ailleurs, moi, je n'étais pas à Tripoli, j'étais à Paris. Et j'ai été informé par quelques journalistes, deux, trois journalistes que je connaissais vaguement, comme ça, qui m'avaient entendu parler avec un certain scepticisme au départ de cette affaire, et qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient enquêté sur ce bombardement de Tripoli, et que... Je parle de journalistes, de Canal+, de France 2, pas de jeunes pigistes débutants qui n'arrivent pas à se faire entendre, hein, mais de réalisateurs confirmés, faisant partie du milieu, enfin, qui ne sont pas des marginaux, et qui disent on ne filme pas un non-bombardement, bien évidemment. Donc on ne peut pas opposer une image à une autre image, ou une non-image à une autre non-image. C'est toute la... difficulté de la chose, puisque l'image mentale est déjà constituée, l'image physique est finalement superflue. Et c'est Régis Debray qui, je trouve, tapait juste en disant que contrairement à ce qu'on croit, on voit avec nos oreilles, c'est-à-dire on voit avec des mots, et les images sont secondaires par rapport aux mots. Et l'idée que nous sommes gouvernés par l'image est extrêmement trompeuse. Nous sommes gouvernés par les idées qui prennent forme dans les mots. Enfin, me semble-t-il, j'ai vu en tout cas ma confirmation de cela, mais ce n'était pas la première fois que j'étais confronté à ça. Simplement, cette fois-là a été plus énorme, plus intense, plus explosif, si j'ose dire, que toutes les fois précédentes. Donc, fausse attaque. La Maison-Blanche a eu au moins l'honnêteté, 15 jours plus tard, de démentir en termes diplomatiques, c'est-à-dire en affirmant que rien ne confirmait l'attaque dont il était question là, qui avait tout de même donné lieu à cette première réaction d'Obama. Mais en tout cas, ils ont au moins eu l'honnêteté d'afficher sur le site de la Maison-Blanche que c'était un bobard, ce que n'ont fait ni les Anglais, ni les Français. Mais il se trouve que le jour où ce démenti prudent mais réel est publié, un autre petit événement qui a lui aussi son importance se produit, à savoir une conférence de presse du délégué de la Ligue libyenne des droits de l'homme à Genève, conférence de presse qui a lieu à Paris, au cours de laquelle, donc là on est le 1er mars, on est 15 jours après le début des événements, au cours de laquelle il déclare qu'on a, déjà déterré des charniers qui contiennent environ 6000 cadavres. 2000 à Benghazi, 3000 à Tripoli, 1000 dans d'autres, en additionnant deux ou trois autres charniers. Et là, on a une affaire Timișoara. Timișoara, il y avait 28 cadavres, si je me souviens bien, 28 cadavres qui sortaient du cimetière, tout simplement, hein, pas d'un massacre. Enfin, au moins, en 8 jours, l'affaire Timișoara a été éventée, la manipulation a été mise en pièces, et on a compris assez rapidement ce dont il était question. Là, les 6000 cadavres sont annoncés par ce délégué de la Ligue libyenne des droits de l'homme. Personne ne s'interroge sur la manière dont on tue 6000 personnes en l'espace de 15 jours. Là, c'est un peu mon... Enfin, sans doute qu'en tant que médecin impliqué depuis très longtemps dans des conflits armés, dans les choses, j'ai un sens des ordres de grandeur plus affirmé que d'autres. Mais tuer 6000 personnes, ça demande beaucoup de travail, ça demande énormément de mitraille, énormément d'obus, énormément de balles, énormément d'efforts, énormément de monde. C'est pas tuer 100, 150 personnes, il y a un changement d'ordre de grandeur là. Et apparemment aucun des journalistes assistant à cette conférence de presse ne s'intéresse à la manière dont ces gens ont été tués. Il suffit de parler de rafales, comme si les rafales tuaient des milliers de personnes en si peu de temps. Et puis où a-t-on vu des foules compactes être rafalé, mais en plus, des charniers, il n'y a rien de plus visuel qu'un charnier. Pas une seule photo à l'époque où chacun a un appareil photo dans la poche, parce que les smartphones en Libye, il y en a au moins un par personne. Donc, aucune photo n'est produite, mais 6000 morts sont annoncés. Et ce délégué a avoué, a confessé, mais malheureusement, il l'a confessé à un journaliste qui n'est pas un journaliste, qui est un militant complotiste, et dont les productions donc, sont sans effet, enfin n'ont d'effet que dans les milieux qu'il accueille. Mais il l'a dit quand même, j'ai vu cette séquence qui n'est pas un montage, parce que c'est une séquence, c'est un plan séquence d'une huitaine de 6 à 8 minutes, où ce gars de la Ligue libyenne des droits de l'homme dit que 1000 morts c'était pas assez, 20 000 morts c'était trop, 6000 morts ça lui a paru bien. Et, en réalité, à l'époque, on compte entre 200 et 300 morts, dont plus de la moitié de combattants, de gens armés qui sont morts au combat. Mais cette conférence de presse donc a écrasé le démenti qui avait été posté sur le site de la Maison Blanche le même jour, une conférence de presse organisée par notre ami le clown, dont je parlais tout à l'heure. Et puis le troisième bobard, énorme aussi, là qui montre à quel point les mots qu'on emploie et les préjugés qui sont leur horizon d'accueil importent, ce sont ces fameux chars qui se dirigent sur Benghazi. Je le rappelle, dans un monde entièrement minéral, ils parcourent 1000 km dans de la rocaille, de la pierraille. Il n'y a pas de grotte, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de... C'est une route côtière totalement dégagée. Donc, et c'est l'endroit le plus photographié du monde à ce moment-là. Les satellites, les sous-marins, les drones, les hélicoptères, les avions d'observation. Enfin, tout ce monde-là, la flotte américaine de Méditerranée est dans le coin. La flotte française de Méditerranée est dans le coin. Le groupe aéronaval de Charles de Gaulle patrouille là. Tous les moyens sont mobilisés là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens de l'amiral qui commandait cette flotte, qui était donc le chef des opérations sur le terrain, enfin en tout cas sur son porte-avions. Je tiens de sa bouche même qu'aucune colonne de chars ne circulait là. Enfin, en tout cas, qu'eux n'en ont vu aucune. Mais et là encore, des colonnes de véhicules, des pick-up chargés d'hommes en uniforme dépareillé avec des sacs de grains qui se dirigent vers on ne sait où, vers on ne sait où d'ailleurs, peu importe. Voilà ce qui tient lieu de colonnes de chars. Et donc c'est cela qui a entraîné la réaction. Donc la séquence bombardement des manifestants de Tripoli annonce des charniers qui laissent entendre le massacre à venir et le grandissement de la menace, on a parlé de génocide hein, pour Benghazi et d'une extermination généralisée. Voilà la marche vers la suite. Bon, je vais m'arrêter là parce que la suite serait d'un autre ordre. C'était pourquoi on n'a pas simplement défendu Benghazi, pourquoi on a tué Kadhafi, etc. C'est bon, c'est des affaires qui me passionnent, mais je pense que c'est hors sujet pour notre conversation et je ne veux pas te tenir trop de temps. Mais pour donc boucler là-dessus, il y a d'une certaine manière organisé par l'État français cette espèce d'expédition punitive entièrement sur des éléments factuels entièrement fantasmés qui sont à grande échelle, à mon avis, le strict équivalent de ces pogroms, de ces lynchages de Rome. Le Rome est construit comme une figure menaçante, à la fois mystérieuse et menaçante. Rien de plus facile que de mobiliser contre eux. Il me semble, là, ça renvoie à la discussion qu'introduisait Gus tout à l'heure, il me semble qu'il y a quelque chose de... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de singulier dans l'antisémitisme, pas de singulier dans la gravité par rapport à d'autres, c'est pas plus grave que d'autres, mais ça a sa singularité, je pense. Du point de vue, le complexe de supériorité qu'on peut manifester vis-à-vis des Roms ou des Arabes se renverse vis-à-vis des Juifs. Et c'est ça, me semble-t-il, qui constitue la singularité dans une espèce de complexe d'infériorité. Le Juif, intelligent, manipulateur, caché, voleur, etc., mais tout cela dans une position de pouvoir surplombante. Et c'est ça, alors qu'on ne mettrait pas l'arabe, le rhum, le nègre, le chinois, tous les sujets habituels du racisme. Non, non, aujourd'hui c'est différent. Je parle du racisme traditionnel. Oui. Effectivement, le chinois aujourd'hui, il fait peur.
Mais ça, c'est la
mentalisation. Oui, tout à fait. Enfin, donc c'est pour ça, c'était juste une petite remarque sur le juif, mais en tout cas, Rome et arabe, là, occupent une place tout à fait voisine et comparable, c'est-à-dire vue d'au-dessus, et digne d'être malmené, amené à récipiscence, domestiqué, quoi, d'une certaine manière. Bon, ensuite, tout le reste, jusqu'à l'assassinat de Kadhafi, qui est techniquement un crime de guerre, au passage. Tout ça est dans une sorte de suite logique, mais c'est par rapport aux manipulations médiatiques. Donc pour boucler sur les médias, ce qui me frappe aujourd'hui dans le discours médiatique dominant, par discours médiatique dominant, je veux dire, les, en gros, je pense aux éditorialistes, hein, aux éditorialistes des grands journaux radiophoniques ou imprimés. Tous, je pense, à part BHL et Sarkozy, je crois qu'il n'y a plus personne pour défendre cette expédition coloniale libyenne. Mais en tout cas, pour en défendre les effets, c'est-à-dire tout le monde constate que ça produit des effets désastreux, la situation est catastrophique en Libye. En revanche, et ça ne semble pas résonner de façon contradictoire dans la tête de ces gens-là, en revanche, on continue de justifier l'expédition au nom de l'impérieuse nécessité de défendre la population de Benghazi menacée de la boucherie kadhafiste. Et donc ça n'est pas du tout remis en cause, et même quand on remet ça en cause, on commence à côtoyer Forisson dans le panthéon des menteurs pathologiques et intéressés. C'est effrayant hein, de voir à quel point cette croyance s'est ancrée, ne peut plus du tout, enfin, est très difficile à remettre en question. Et là, je pense que c'est parce qu'ils ont tellement adhéré, avec un tel enthousiasme, à cette guerre qu'il leur est psychologiquement impossible de faire marche arrière, de retrouver un peu de raison, de revenir sur leurs affirmations délirantes, et qui sont en plus, alors, du strict point de vue professionnel, des fautes, quoi, de graves fautes. Des affirmations relayées sans être croisées, sans être confirmées, des assertions délirantes du point de vue matériel, quoi, qui ne peuvent pas être produites, comme ces fameux 6000 morts, qui étaient techniquement impossibles à produire, mais qui sont acceptés comme des vérités factuelles, etc. Donc tout ça les remet tellement en cause qu'il y a une sorte de mécanisme de cliquet, ils ne peuvent pas revenir en arrière, donc on continue finalement de justifier les prémices tout en s'éloignant, s'isolant des conséquences de cette décision calamiteuse. Voilà un titre d'un...
C'est l'analyse optimiste, ouais. L'analyse complotiste, c'est dire qu'ils étaient dans le coup.
Que qui était dans le coup?
Les éditorialistes.
Ah oui, non.
Mais comment BHL, justement, moi je pense à BHL qui a un soupçon de crédit aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un qui a cité Botul dans ses livres.
Ah oui.
Comment est-ce qu'il peut avoir un soupçon de crédit?
Non,
on sait que Botul est un canular.
Qui est un plagiaire, confirmé, enfin, qui est un
voleur de Rome. Est une invention. Botul est une invention du canard enchaîné, bon, un personnage totalement mythique, illusoire. Et BHL cite Botul dans son texte en disant « Botul a dit que... » Et lorsque le canard enchaîné le dit « Botul n'a jamais existé », il dit « Ah, bah, désolé. » Mais voilà, comment un type comme ça... Et après, voilà.
Il a eu le prix Botul, mais il a eu une certaine élégance pour adresser un courrier lors de la cérémonie du prix Botul.
C'est ça, il a fait preuve de... Il a été beau joueur sur cette histoire, et du coup...
Il a été beau joueur en disant, vous m'avez eu...
Alors, c'est cette utilisation-là, carrément, de l'ethnicité, puisque tu parles des Arabes qui sont prêts à...
L'Arabe,
voilà, prêts à nous bouffer, et surtout qu'il était venu planter la tente sur l'Elysée, hein, dans les champs de l'Elysée, donc c'était quand même un sacrilège. Mais moi, ça m'envoie à ce que vous venez de dire plus récemment, là, le massacre dit d'un village Peul au Mali, et qui en fait est un massacre beaucoup plus que vous situez, beaucoup plus socio-professionnel.
Oui, c'est toute une histoire. C'est des démobilisations peules du centre du Mali. Les bergers peules sont en position sociale très dominée. Ils sont les employés très maltraités des grandes familles nobles peules qui trustent en plus les places au niveau des jeunes collectivités territoriales maliennes. Et les mouvements peuls, les leaders des bergers peuls, envisageaient de se porter candidat et de devenir les dirigeants des collectivités territoriales du coin. Les élections ont été toujours reportées. On n'a plus, à part Ibeka, le président de la République, il n'y a pas un seul élu qui est en place aujourd'hui en réalité. Ce sont toutes des délégations, tous les mandats sont dépassés. Et donc, finalement, au bout d'un moment, certains des leaders de ce mouvement se sont dit que ce serait peut-être bien de prendre les armes, parce que c'est un moyen d'obtenir ce qu'on veut, et ils sont allés se faire former à cette technique auprès du Mujahoud. Évidemment, il y en a certains qui sont revenus un peu plus que formés techniquement. Il y a quelques idées, j'imagine. Bon. Mais il faut partir de cette question-là et de tout ce contexte politique pour comprendre comment un certain nombre de bergers peuls se sont radicalisés. Dans cet article que vous avez lu aussi, déjà, on ethnicise la question en disant ce sont des peuls, parce qu'en fait, dans ces mouvements, il y a aussi des Dogons. Voilà, on est piégé par cette façon de nommer les choses. Donc, revenons au début, et au début, la revendication était de type sociopolitique habituel, elle n'était pas du tout. En tous les cas, elle n'est même pas religieuse. Là, je pense que de toute façon, il n'y a aucune. Si ce n'est qu'il y a un lien avec le Mujahoo, parce que c'est là qu'ils ont acquis une compétence organisationnelle.